Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Tachikoma.
Société nouvelle de robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société nouvelle de robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leur zone d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
Interview du général Hugues de la Bosse, commandant de l'Observatoire géopolitique sud-est asiatique.
L'émergence d'un conflit majeur n'était en aucun cas une surprise dans la zone sud-est du continent asiatique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la sécession de Taïwan, on assistait à des fluctuations régulières de la tension régionale. En général, à chaque échéance politique, d'un côté ou de l'autre, le niveau de bellicosité augmentait pour redescendre aussitôt. Cette sinusoïdale occupera les esprits à la fin du XXe et tout le XXIe siècle. On est passé plusieurs fois très près d'un conflit, mais à chaque fois, la raison l'emportait et tout le monde rentrait gentiment chez soi. Les belligérants étaient bien conscients de tout ce qu'ils avaient à perdre. Au premier rang, la Chine, si Taïwan tombait. La fin du pétrole avait quelque peu calmé les ardeurs chinoises. Oh, pas longtemps. Une fois la technologie de l'hydrogène maîtrisée, ils avaient repris du poil de la bête. C'est surtout l'oblitération qui leur a coupé les ailes. On aurait pu croire que pour un pays aux presque 1,5 milliard d'habitants, le volume aurait permis d'amortir le coup. Sauf que la Chine n'était pas aussi automatisée que les autres pays dits développés, faute à la seconde révolution nationale de 2058. Le fameux retour aux sources du prolétariat qui, comme le grand bond en avant de 1958, mettra le pays dans une fâcheuse posture. Faisant de ce pays autrefois craint, un colosse au pied d'argile déplaçant la zone de tension vers la Birmanie.
Interview réalisée le 12 octobre 2140 pour les 10 ans de la fin de la guerre des Quatre. Nous sommes en 2085. Et comme dit dans l'interview, le centre de gravité politique de la zone s'est déplacé un peu vers l'ouest. Le centre de toutes ces attentions, c'est la Birmanie. Mais pourquoi ce pays ? Ce pays tourné vers lui-même, avec de fait des relations très limitées avec le reste de la région. Tout simplement parce que c'est une dictature. À l'image de la Corée du Nord, après l'oblitération, la Birmanie a choisi la version humaine pour pallier au manque de main-d'œuvre, à contrario des pays qui ont opté pour la technologie, à savoir les faucheurs. D'autres pays comme la Chine ont choisi un chemin différent, à savoir essayer de copier la technologie des faucheurs avec entêtement mais sans vraiment de succès. Et comme elle était occupée à développer une industrie robotique, elle ne s'est pas souciée du problème démographique, ou alors trop tard, une fois les tentatives robotiques ayant échoué lamentablement. On va voir plus tard que ce choix pèsera lourd dans la balance de son histoire. La Birmanie, ne voulant pas se corrompre avec une technologie occidentale, a décidé de miser sur une explosion des naissances. Et donc la junte au pouvoir va lancer un programme de réarmement démographique, d'un point de vue d'une dictature, donc avec des méthodes, comment dire, persuasives. De manière logique, interdiction de la contraception et bien évidemment des avortements. Également de la propagande incitant à concevoir des petits birmans en nombre, prime aux mères les plus « productives », entre guillemets, allocation pour les mères qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Mais aussi une mise au ban des femmes qui n'ont pas d'enfants, que ce soit volontairement ou non. et par conséquent un glissement vers une politique eugéniste et son cortège d'abominations. Avec par exemple l'administration d'un traitement supposé favoriser la fertilité de toutes les femmes du pays. Établissement de maisons des futures mères, où ces dernières devront obligatoirement se rendre pour suivre des cours de biologie, pour connaître les meilleures solutions pour être enceinte à coup sûr. Et aussi beaucoup d'endoctrinement pour ne laisser aucun doute quant à la gloire qui ressurgirait sur elle lorsqu'elle donnerait de beaux enfants à la patrie. Promulgation de lois qui feront de toute femme à partir de 15 ans des génitrices en puissance. Passé cet âge, elles devront obligatoirement faire preuve de leur volonté d'être enceinte, examen médical à l'appui. Tout citoyen n'ayant pas tenté d'être enceinte à partir de 15 ans se verra jeté en pâture à la vindicte populaire. Les jeunes femmes subiront une pression énorme. Celles qui seront mariées de force, évidemment, auront la chance, entre guillemets, de pouvoir élever leurs enfants. Les célibataires se verront retirer leurs nourrissons et devront au plus vite entamer une nouvelle grossesse. Sans compter les expérimentations les plus abjectes tentées dans des laboratoires pour tirer le meilleur rendement de ces pauvres futures mères. Ce seront ainsi plusieurs générations de femmes qui seront sacrifiées, tant physiquement que mentalement, sur l'autel de l'essor démographique de la Birmanie. Les enfants du programme, comme ils seront officieusement nommés, n'auront pas un avenir brillant devant eux. Au champ de leurs 10 ans, les garçons auront, si on peut le dire ainsi, de la chance par rapport aux filles. Ce repeuplement à marche forcée sera un succès. Mais à quel prix ? C'est un détail que les membres de la junte n'auront pas anticipé. Tout ce monde doit manger. Le programme surfonctionne. Et des quantités énormes des populations surgissent rapidement, et faute d'anticipation, les terres cultivables se font rares. C'est un cercle vicieux. Il faut des bras pour l'agriculture, mais il faut bien les nourrir, ces paysans. Le pays va donc devoir trouver des terres cultivables, mais où ? À l'ouest ? Ben non. Le Bangladesh sera encore radioactif pour des siècles. Le Laos ? Non plus. La topographie au nord est trop complexe et les terres agricoles pas assez rentables au vu de l'engagement nécessaire. Ce sera donc le nord de la Thaïlande. Pour commencer, l'annexion se fera sans trop de vagues. Depuis quelques années, les régions du nord de la Thaïlande sont en conflit avec le pouvoir central et ont décrété leur indépendance. Faute de moyens, Bangkok avait laissé faire, masquant son impuissance par de la magnanimité. Les dirigeants birmans y ont vu une opportunité. Personne ne viendrait aider les régions sécessionnistes. L'ONU y trouvera quelque chose à redire, mais l'institution ayant perdu tout pouvoir, les diverses protestations et autres résolutions seront autant de gesticulations. Cette première partie se fera dans un calme relatif. Quelques escarmouches auront lieu dans les premiers jours de l'annexion, mais les sécessionnistes seront mis devant le fait accompli. D'autant que la manœuvre fut précédée d'une campagne de propagande, qui décrétait que les Birmans viendraient en sauveur d'une rébellion légitime. Bref, l'affaire fut pliée en moins d'un an. Mais l'objectif principal n'était pas là. Il s'agissait d'un galop d'essai, histoire de voir comment les puissances régionales réagiraient. Eh bien, il ne se passera pas grand-chose, voire quasiment rien. Les voisins de la Birmanie étaient presque habitués à ce genre d'action, tant la dictature était coutumière du fait. Certes, les premières fois, il s'était agi de l'envahissement de petites régions, et les pays concernés avaient d'autres chats à fouetter. Vu la configuration politique de la zone, et aussi, mais surtout de l'absence de toute matière première, les dirigeants thaïlandais n'avaient pas trop moufté. Donc, au vu des réactions plutôt faiblardes des autres pays, eh bien le plan pouvait continuer à se dérouler. Ce qui fut fait le 12 décembre 2123. Le territoire thaïlandais annexé n'était pas assez rentable au niveau agricole. il fallait un terrain, comment dire, plus fertile. La province du Yunnan, en Chine, rien que ça. Elle représente 70% de la surface de la Birmanie avant annexion et quasiment le même nombre d'habitants. C'est ce qu'on appelle un gros morceau. La tactique fut la même. On provoque des tensions internes et vis-à-vis du pouvoir central. On s'invite comme pourvoyeur de paix et on rafle la mise. Ici, pas question de région dissidente. Le Yunnan est un patchwork d'ethnies diverses et il suffira de privilégier ou de donner l'impression qu'une ethnie l'est pour créer des déséquilibres. Les Birmans, grands seigneurs, viendraient apporter une parole de paix. Autant en Thaïlande, c'est passé crème, autant en Chine, le pouvoir est un peu plus chatouilleux. Et voir une région aussi essentielle à l'approvisionnement alimentaire passer sous giron étranger, bah non, ça va pas le faire. Les combats vont être durs et très fluctuants. Les zones conquises par les Birmans pouvant être reprises très vite par les Chinois. Bien qu'affaiblis par l'oblitération et sans programme démographique de choc à l'image de celui de la Birmanie, la Chine va tout de même lutter durement. Les moindres parcelles conquises par l'un ou l'autre des belligérants le seront de haute lutte. Au bout de 18 mois de combats intenses, les Birmans vont commencer à prendre le dessus. C'est surtout de par le nombre de combattants disponibles que la balance va pencher en faveur de l'agresseur. La politique de natalité à outrance birmane avait porté ses fruits, mais là encore, à quel prix? Ce sont des wagons entiers de jeunes soldats qui sont envoyés au casse-pipe. Les stratèges birmans ne sont pas reconnus pour leur finesse d'analyse et leur vision à long terme. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire déferler des vagues de bonhommes kaki dans les vallées du Yunnan. Certaines offensives verront des cohortes entières de soldats birmans, à peine équipés, parfois désarmés. Des soldats fanatisés qui iront mourir sur les défenses chinoises qui seront submergées par le nombre. Le terme « chair à canon » n'aura jamais été aussi absurdement juste. La Chine, sentant ses forces armées atteindre leur point de rupture, va alors partir dans une course en avant aussi improbable que désespérée. Le 23 juin 2125, 5 missiles balistiques vont être lancés vers le Yunnan, quelques dizaines de kilomètres derrière les lignes de défense chinoises. Mais vous allez me dire, pourquoi derrière les lignes chinoises? La politique de la terre brûlée, vous connaissez? Histoire de dire aux Birmans, si je ne peux pas garder ce territoire, eh ben vous ne l'aurez pas non plus. En sacrifiant au passage la moitié des forces chinoises sur place. Mais aucun missile n'arrivera. Ils auraient été interceptés. Par qui? On ne connaissait pas aux Birmans la capacité anti-missile balistique. Un revirement des Chinois, une tentative de bluff. Officiellement, ils ont volontairement détruit les missiles pour montrer à quel point ils étaient déterminés. Officieusement, rien de tout ça. Mais pour le moment, c'est un mystère total. Toujours est-il que le carnage va continuer de plus belle. Maintenant qu'on pensait que les Chinois hésiteraient à atomiser leur propre territoire, les Birmans s'étaient ragaillardis et allaient continuer leur projet de conquête. Mais au fil des mois, la progression se faisait moins rapide, avec un coup humain toujours aussi effroyable. Et malgré un réservoir de troupes au départ conséquent, les belligérants commençaient à avoir du mal à trouver de nouvelles troupes. À ce moment de la chronologie des faits, il faut que je vous parle de Hong San et de Kin Mung. Ces deux jeunes hommes se sont rencontrés sur les bancs de l'école supérieure d'ingénierie de Bratislava. La même université qui verra passer Roman Josip quelques années plus tard. Rencontre fort improbable de deux Birmans dans une université européenne, me direz-vous. Pas tant que ça. Les deux garçons sont fils de dignitaires birmans et le pays a de grandes ambitions pour eux. Car en plus du programme de repeuplement, la junte birmane a décidé de fonder le Bureau 21. Officiellement, il s'agit d'un organisme chargé des brevets technologiques transférés entre guillemets depuis d'autres pays pour essayer de fabriquer des robots agricoles simples. Officieusement, la mission de ce bureau est de concevoir des robots terrestres de combat. On ne peut pas enlever ça à la junte birmane. Elle n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Même si l'objectif n'est pas franchement reluisant, voire même abject. Dans le plus grand secret, les deux hommes vont diriger un bureau d'études et concevoir plusieurs modèles de robots. Au début, ils vont tâtonner. Normal pour une discipline inédite dans le pays. Au fil du temps, ils vont progresser, aidés en cela par un service d'espionnage plutôt efficace pour ce qui est de récolter des informations des industries occidentales. Mais cela ne fait pas tout. La rétro-ingénierie a ses limites. Et les deux garçons vont devoir développer des trésors d'ingénierie pour commencer à créer des robots dits « viables ». Leur complicité engendre une émulation forte qui les pousse à se dépasser constamment. C'est à celui qui va sortir le meilleur engin qui va surpasser celui du confrère. Le premier robot opérationnel est mis en service le 5 août 2127. Le Golem, nom donné par Hong, féru d'histoire des religions, est un robot à roues de la taille d'une petite voiture, équipé de matériel d'observation et de petit armement pour son autodéfense. Il va se révéler efficace, mais manquant de capacité de franchissement. Le robot suivant, conçu par Qin, sera une évolution de Golem et répondra au doux nom de Roboto. Robot en japonais. Ça manque un peu d'inspiration, en effet. N'empêche que Roboto est un succès. Et c'est ainsi qu'une sorte de musique va se mettre en place. Hong sort un modèle pas parfait et Qin l'améliore avec une nouvelle version. Après les roues, ce seront les chenilles qui vont équiper les machines. Et viennent enfin les robots sur jambes. Et c'est avec eux que l'effet psychologique va être maximal sur les troupes chinoises. Imaginez, vous êtes un soldat chinois en pleine forêt subtropicale. La chaleur, l'humidité, la tension de savoir l'ennemi tout proche. Et là, vous entendez un bruissement de végétation mêlé à un étrange bruit mécanique. Vous savez que quelque chose approche. Vous vous doutez que c'est un robot birman. Vous en avez entendu parler de ces bêtes artificielles semblant issues de l'enfer. Vous vous attendez à voir débouler une de ces machines. Vous vous abritez derrière un arbre et tentez un coup d'œil dans la direction du bruit. Mais d'un coup, plus rien. Silence total. Vous n'osez plus bouger. Vous êtes en alerte. La sueur vous brûle les yeux. Votre cœur bat comme un fou. Mais rien ne vient. Ou plutôt, rien ne vient devant vous. Et là, vous l'avez, ce sentiment étrange que quelqu'un vous observe. Ou plutôt que quelque chose vous observe. Vous aurez juste le temps de lever la tête et d'apercevoir d'un coin de l'œil le robot qui est descendu le long de l'arbre derrière lequel vous étiez abrité. Vous aurez juste le temps de voir ses yeux rouges quand il se jettera sur vous. L'aspect des machines et les diverses légendes de champs de bataille vont, en l'espace de quelques mois, saper le moral des troupes chinoises. Hong et Qin rivalisent de créativité pour sortir des robots de plus en plus efficaces. Qin se creuse les ménages pour améliorer les capacités de mouvement de ses créations. Hong, lui, se révèle de plus en plus retors pour les équiper d'armes les plus pernicieuses et appliquer des tactiques d'emploi les plus perverses. L'idée de faire descendre les robots des arbres en silence, c'est lui. Et ça commence à déranger Qin. Lui, il est idéaliste, certains diraient naïf. Pour lui, c'est l'ingénierie. Il y a un problème, il trouve une solution. La guerre, en quelque sorte, c'est pas son histoire. Lui, c'est les robots. Une sorte de déni criminel. Il est complètement engagé dans cette logique guerrière, mais n'assume pas. Hong, pour sa part, c'est l'inverse. Au fil des projets, il s'est rendu compte que la conception pure des robots, c'est pas son fort. Sa passion, entre guillemets, c'est la customisation des machines et leur mode d'emploi. Il prend son pied à imaginer des techniques de harcèlement des adversaires et le meilleur moyen de les faire souffrir. À eux deux, ils forment une sorte de dualité Jekyll-Hyde. Au raffinement technique des robots, C'est une bestialité toute humaine qui répond dans son emploi. La junte au pouvoir approuve. Les succès sur le terrain montrent que la formule est gagnante. Début 2129, le Yunnan est conquis. Objectif rempli. Mais pour se protéger d'une contre-offensive, les chefs birmans décident de créer un no man's land entre les nouvelles terres birmanes et le territoire chinois. Ils vont demander au bureau 21 de concevoir un robot qui ira répandre un agent toxique qui mettra fin à toute vie organique dans la vallée de la rivière Heishu, créant ainsi une barrière géographique et chimique contre la Chine. Le robot en question mesure 2 mètres de haut, il est quasi intégralement noir, il a 4 pattes fixées sur son bassin, si on peut le nommer ainsi, constitué de l'empilement de 3 sphères. Le corps principal du robot, posé au sommet des 3 sphères, est un parallélépipède constellé de petites sphères cuivrées. Les sphères en question sont des buses qui vont projeter le produit toxique. Sa conception lui donne une démarche chaloupée, totalement en décalage avec sa mission, et en voir des dizaines évoluer à l'unisson ressemble parfaitement à une vision de ce que peut être l'enfer. De quoi nourrir vos cauchemars pendant de nombreuses nuits, si tant est que vous puissiez fermer l'œil. Mais, coup de théâtre 2 semaines après le lancement du projet, Kin va disparaître. Quelques jours plus tard, on va retrouver sa voiture au bord d'un fleuve. La thèse du suicide sera retenue, d'autant plus qu'un corps non identifié sera retrouvé en aval quelques jours plus tard. Kin sera déclaré à titre posthume traître à la nation. Le suicide ayant été, bien évidemment, rendu hors la loi avec le programme démographique. Cette disparition va sérieusement ralentir le développement du nouveau robot. Hong s'étant reposé sur Kin ces derniers temps pour la conception de base des machines. Mais, tout de même, avec presque un an de retard, le pandémonium est prêt. On sent bien que c'est Hong qui l'a baptisé. Son lancement opérationnel est effectué le 6 juillet 2130. Le produit dispersé étant tellement nocif que personne ne va suivre les robots et toute la campagne se fera de manière automatique. Les premiers résultats devront arriver 2 semaines plus tard. Mais au bout de 2 semaines, rien. 3 semaines, rien. 4 semaines, toujours rien. Un rapide survol par un drone de surveillance permit de confirmer la progression des robots conformément au programme. Mais dans les zones traitées, aucun signe de dégradation de la faune. Lors du même vol d'observation, les opérateurs vont remarquer une bizarrerie. Des robots sont à la traîne, quelques kilomètres derrière la rangée des pandémoniums. Ce décalage est mis sur le compte d'un bug de programme. Néanmoins, Hong étant doué dans le domaine de la tactique, ça n'aurait pas dû arriver. Ce dernier demande à ce qu'un drone s'approche au plus près des brebis galeuses pour essayer de les diagnostiquer. Il y a un truc qui cloche. Les robots non seulement ne répondent pas aux messages, mais en plus, ils sont légèrement différents. Hong va même tomber de sa chaise quand il va voir sur les robots égarés un drapeau laotien. Pas bien grand le drapeau, mais nettement discernable sur la carcasse noire de la machine. C'est la stupeur dans l'état-major birman. Le Laos était censé être un pays totalement à la dérive, en proie au chaos post-oblitération. Comment le Laos avait pu déployer ses robots et pourquoi ils ressemblaient tant au pandémonium? Une flopée d'espions est envoyée au Laos pour connaître le fin mot de l'histoire, avec très peu de résultats. L'élément le plus concret qui sera trouvé, c'est le nom du robot, Tachikoma. Après une courte recherche, l'état-major birman découvre que ce nom vient d'un robot, personnage d'un manga, Ghost in the Shell, paru au XXe siècle. C'est le mystère le plus total. Pourquoi un nom japonais pour un robot laotien? Les japonais seraient-ils dans le coup? Ils auraient fait une entorse à la politique illusionniste? Et pourquoi intervenir maintenant après 7 années de guerre? Ils n'auraient rien gagné à l'échec de cette opération. Au contraire, une Chine faible ne serait pas pour leur déplaire. Hong, tout accaparé à ses travaux pour savoir quoi faire de ces robots pirates, n'aura l'information du nom que quelques jours plus tard. Et lui saura pourquoi, Tachikoma. Une seule personne aurait eu les connaissances techniques sur ce robot. Une seule personne avait aussi peu d'inspiration pour trouver les noms des robots. Une seule personne aurait eu l'idée de lui affubler un patronyme aussi peu en rapport avec le contexte, Kin. Hong en est convaincu, c'est Kin qui est derrière tout ça. Il aura le nez creux, c'est bien Kin qui est aux manettes côté Laos. Quand il a vu arriver le projet Pandemodium, ce fut la goutte de trop. Depuis plusieurs mois, il commençait à avoir des remords. Au début de la guerre, il voulait servir son pays. Il aimait son boulot, il savait que ses robots étaient efficaces sur le terrain et qu'ils servaient les plans de la junte. Il était heureux. Jusqu'à ce qu'il réalise ce que voulait dire « efficace pour un robot sur un champ de bataille ». Une fois le projet sur les rails, mais pas trop avancé pour que Hong piétine dans la conception, il va fuir. Aidé en cela par des espions laotiens. Mais pourquoi Laos ? Vous connaissez le dicton ? Pour vivre heureux, vivant caché. Le gouvernement laotien, inquiet des velléités territoriales birmanes, a décidé de passer pour un état fantôme pour ne pas paraître comme une menace. Aidé par d'autres puissances locales, la Chine, le Cambodge, le Vietnam et ce qui restait de la Thaïlande, qui lui auront permis de fonder une industrie robotique de pointe. Le pays ferait office de porte-avions dans un océan de désordre politique et militaire. Une île au milieu du chaos. Une sorte de cheval de Troie. Kin a fui au Laos avec les plans de sa version du Pandemonium, le Tachikoma, qui pourrait être déployé sur le terrain sans se faire repérer et épandre le contrepoison juste derrière les robots birmans. Une fois informés par Hong de la trahison, les dirigeants birmans vont décider de détruire les Tachikoma et d'attaquer le Laos en représailles. Mais leur plan ne sera pas mis à exécution. Plusieurs explosions atomiques vont détruire le QG des forces birmanes et le bureau 21, pourtant tous deux censés être introuvables et inattaquables. Faute de chef, les armées robotiques birmanes vont se replier dans le plus grand calme, laissant le champ libre aux forces combinées qui auront tôt fait de canasser ce pays aux trop grandes ambitions. Votre serviteur aura même la chance de pouvoir récupérer un Tachikoma pour service rendu. C'est toujours bien d'être du bon côté du manche. Bon, c'est pas tout ça, moi, mais j'ai des missiles balistiques à les planquer en orbite jovienne.